Bonjour à tous, pour tous ceux que je n'ai pas vus. Je vais continuer dans la même lancée que j'avais prise la dernière fois. Nous avions vu le Père des Miséricordes. Aujourd'hui, nous allons voir le Père des Lumières. Il y a plusieurs noms de Père comme ça dans la Bible. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons besoin d'avoir une réelle perception de Dieu. Pas une image, ni une conception de Dieu. Dieu ne s'explique pas, ne se comprend pas, ne se limite pas. Il est dans l'infini, il demeure dans l'éternité, il respire la sainteté et il s'exprime dans l'amour. Et j'ai pas assez dit. Je devrais en dire encore plus. C'est ce qui donne aussi vie à la Bible. Quand nous nous arrêtons et que nous réfléchissons justement, elle n'est plus à ce moment-là le livre saint ou un livre. Par l'innocence, c'est-à-dire sans péché, elle devient la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est pure, sans tache, elle est vérité et vie. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Ce sera notre leitmotiv durant ce passage. Genèse 1, versets 1 à 5. Alors, je suis désolé, j'ai pas fait de PowerPoint, mais je savais pas si ça fonctionnait ou pas. Alors, prenez votre Bible. Genèse 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Nous sommes au début. Au début de ce message et au début aussi de nos réflexions, il me semble important de commencer par le début, n'est-ce pas? Et au début, nous voyons les ténèbres qui sont à la surface de la terre. Il n'y a rien et on ne voit rien, mais il n'y a personne pour voir non plus. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. J'espère que je vous ai mis en appétit. Prions. Oui, Seigneur, c'est tellement merveilleux de se pencher sur toi. Chaque caractéristique qui te concerne nous permet de nous ouvrir davantage encore sur la perception que nous pouvons avoir de toi. Et nous savons quand même, Seigneur, que nous sommes limités. Face à l'immensité de l'éternité, qu'est-ce que nous sommes? Mais Seigneur, tu nous as donné justement ta parole pour pouvoir nous réjouir. Merci de ce matin, de cette introduction par notre frère qui nous a encouragés, c'est vrai, et qui nous a montré que nous faisons bien de te faire confiance. Nous faisons bien de nous assurer sur toi. Même les chants, hein. J'ai entendu un mot miséricorde, mais ce mot qui me touche tellement, tellement. Moi qui suis un pécheur, je reçois la grâce que je ne mérite pas. Et Seigneur, c'est un cadeau. Merci de ce matin nous rappelant encore une fois ce que tu es réellement, ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant, mais aussi ce Dieu miséricordieux et compatissant. J'aime à penser, Seigneur, que tu es notre Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous sommes prêts à recevoir le message de Dieu. Pensons bien que chez Dieu, tout est excellence, perfection, sainteté et absolu. Et pour moi, croyez bien que ce sont des merveilles. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet de respirer. Quand je m'arrête et que je pense à Dieu, je respire Dieu. Donc, le premier jour, Dieu créa la lumière. Et nous allons parler de la lumière. Si vous descendez dans une cave sombre, par exemple, vous voyez rien. Vous êtes déjà arrivé? Vous tenez, hein, parce qu'il y a les escaliers et dangereux. Mais allumez une bougie. Et les ténèbres font place à la lumière. La lumière chasse les ténèbres. La lumière révèle tout ce qui se trouve sous son halo. La lumière, c'est la vérité absolue. La lumière, c'est la vie. Et je reprends ce texte, si vous voulez venir avec moi, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 9. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 9. Au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Très beau passage que ce premier passage de Jean. Voici l'idée de notre texte de ce matin. Mais avant cela, en introduction, je souhaiterais vous parler de la caractéristique essentielle pour comprendre la parole de Dieu. Jacques nous dit en entrée, en matière, dans le texte que nous regarderons, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. » J'ai rajouté « sœurs », hein, c'est pas dans le texte, parce que ça nous concerne tous. Avec de telles interpellations, il me paraît essentiel de dire qu'une qualité est indispensable pour comprendre. Nous allons voir ce matin que la parole est vraiment la parole de Dieu et qu'elle parle à nos cœurs, qu'elle doit parler à nos cœurs. Mais pour ça, il faut une qualité. Et Jacques nous dit, vous savez qui c'est Jacques, au fait, hein? Jacques, c'est le frère du Seigneur, demi-frère, hein? Frère, après. Et Jacques est cet homme qui a vécu à côté de Jésus tout au long de son périple, qu'il a observé. Et c'est pourquoi, dans le texte de l'épître de Jacques, il y a cette sensation de pureté, de sainteté. Il y a cette extraordinaire pensée que Dieu est tout, qu'il est merveilleux, qu'on a bien raison de s'accrocher à lui. Mais que nous, malheureusement, nous sommes des pécheurs. Moi, ça me plaît, ça me parle bien. Parce que je me vois bien dans l'épître de Jacques. Quand il dit comme ça, vous demandez, mais vous demandez mal. Vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Waouh ! Vous ne pouvez pas vous échapper, hein, dans l'épître de Jacques, lorsque l'on s'accroche au texte, qu'on regarde, poum, 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 on prend des putsch, là, comme ça, dans la figure. Carreau debout, hein. On va pas bien loin, hein. Et c'est pour ça que, là, il nous interpelle en disant comme ça, ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Mais avant, on va parler de cette qualité essentielle. Il y a une qualité essentielle. D'après vous, je vous demande pas de me répondre, mais je vous laisse juste quelques secondes pour y penser. Quelle peut être cette qualité essentielle qui nous permette de véritablement posséder la parole de Dieu, se laisser imprégner par elle, parler avec Dieu et entendre Dieu nous répondre? Quelle est cette qualité essentielle? Eh bien, elle se trouve dans Philippiens 2. Venez avec moi, Philippiens 2, chapitre 2, les versets 1 à 8. Et je reprendrai un peu la suite de notre frère qui nous a conduit ce matin. S'il y a donc de l'encouragement en Christ. Et vous voyez, ce que j'aime bien aussi, c'est cette condition. S'il y a donc quelque encouragement en Christ. Est-ce que vous êtes comme moi que quand vous lisez ce texte, vous êtes interpellé? Il vous agresse. C'est pas un texte innocent. C'est un texte qui veut s'adresser à chacun d'entre nous. Il est là, en face de nous, il fait poum, poum. Et s'il y a vraiment de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, je pense à ceux peut-être qui sont fatigués ce matin, ceux peut-être qui sont découragés. On a parlé d'encouragement, mais quand on est découragé, c'est difficile de s'encourager. Je pense à eux, et je prie pour eux. Eh bien, il y a de la consolation d'amour. S'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Waouh! Alors ça, c'est intime, hein. C'est personnel, je sais pas pour vous. Mais pour moi, quand j'entends ce mot du Père, qu'il dit comme ça, s'il y a de la tendresse et de la compassion. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, dit l'apôtre. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Wow. Si vous avez des intérêts, venez me le dire, que je puisse les regarder. Parce que je suis un petit peu égoïste, c'est vrai. Comme tout le monde. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Vous avez compris, hein, c'est l'humilité. Voilà la chose la plus difficile pour moi. L'humilité. Je suis un orgueilleux. L'orgueil m'a permis de survivre dans mon enfance, mais il a gravé dans ma nature humaine un handicap spirituel. L'orgueil est vraiment le plus gros obstacle à la vie chrétienne. Comme le dit Paul, il dit comme ça, je vois cette loi accrochée à ma chair, que quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que l'on peut tous dire cette vérité? Le pécheur, c'est ce qu'il dit. Celui qui se reconnaît pécheur, c'est ce qu'il dit. L'orgueil nous pousse à ne vouloir en faire qu'à notre tête. Je sais. Donc, pas de contrainte, pas de renoncement, pas de perte, pas d'oubli, pas de sacrifice. C'est ne pas tenir compte de Dieu. Depuis ma retraite, je vous en ai déjà parlé, j'ai trouvé ma place de pardonner. Vous savez que ça c'est extraordinaire, d'arriver enfin à se trouver une place. Une place dans l'immensité du peuple de Dieu et de l'espace aussi, hein, dans le monde divin. Et cette place, c'est au pied de la croix, à côté de Marie. J'écoute Jésus nous parler de Dieu. Est-ce que je vais faire ce matin? Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Voici notre texte de ce matin. C'est dans Jacques 1, le verset 16. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors, c'est court, et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Vous allez voir que lorsqu'on laisse la parole de Dieu faire son travail, elle nous révèle des tas de secrets, des tas de choses qui sont cachées. Et vous savez que c'est la sagesse des rois que de chercher les choses qui sont cachées. Dans les mois à venir, comme je vous ai dit, je me sens appelé à parler de la personne de Dieu, de notre bon Père céleste, le Père des miséricordes. Vous savez, moi, j'ai pas eu de père. Et quand on n'a pas eu la chance, le privilège d'avoir un père qui est aimant, qui s'occupe de ses enfants, eh bien, on est privé de quelque chose. Le jour où j'ai rencontré Dieu, je n'ai pas vu Dieu comme peut-être beaucoup d'entre vous l'ont vu. Je l'ai vu comme un père. Le père que j'avais imaginé que je n'ai jamais eu. C'est-à-dire, il était extraordinaire, ce père que j'aurais voulu avoir. Plus que ça, même. Vous ne pouvez pas imaginer tellement il était beau. Et quand j'ai rencontré Dieu, c'était ce père-là. Ce père qui était fantastique et qui tendait sa main vers moi en disant comme ça, n'aie pas peur. Dans Isaïe, souvent, il dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Je suis avec toi. Et tu sais, je t'aime. Pas comme le monde aime, je t'aime avec miséricorde, compassion et tendresse. C'est toi que j'aime. C'est à toi que je parle. T'entends? Oui, j'entends, Seigneur. Ah! J'ai eu peur un moment, tu m'écoutais pas. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout ce qui est bon vient d'en haut, et la grâce coule du ciel. Paul aussi, dans Éphésiens, demande à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur, d'éclairer de sa lumière notre cœur. La lumière qui vient de Dieu est une lumière qui perce même notre cœur. Elle nous traverse. Et à l'intérieur, elle révèle tout ce qui est caché. Wow. C'est peut-être pas terrible, ça. Peut-être des choses qui sont cachées. Il nous a engendrés, il nous a donné de sa vie. Ne retournons pas à la mort, siège des ténèbres. La mort, c'est l'extinction de la lumière. On ferme les yeux. C'est ça, la mort. Et je pense au buisson ardent. Vous imaginez, vous, de temps en temps, ce buisson ardent que Moïse a vu? Moïse ne peut supporter cette vision, comme on ne peut supporter de regarder le soleil en face. Soleil qui est la création de Dieu, à bien plus forte raison. Dieu qui est lumière ne peut-il être supportable de notre regard humain? Et Moïse, là, il en prend plein la vue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime bien parler de Dieu comme mon père. Dans l'Ancien Testament, les Juifs appelaient Dieu Adonai, Seigneur, Maître. Ils en avaient peur. Ils le voyaient tout puissant, terrible, redoutable. Depuis que Jésus est venu, Jésus nous a révélé le Père. Jésus a apporté une notion d'intimité, de douceur. Notre relation est devenue personnelle. Ce n'est plus un Dieu lointain, redoutable, qu'on a peur. C'est un Père. Tendre Père, nous chantons. Nous pouvons parler avec Dieu comme avec un Père, sans retenue. Cela ne veut pas dire que Dieu perd sa nature divine, son essence parfaite, qu'il descende de sa gloire. Non, non, non. Dieu règne. Dans son infini, Dieu est souverain, majestueux. Il ne change pas. Alors nous allons regarder juste rapidement trois points sur la lumière, du Père des Lumières. D'abord, elle est claire. Ah, je n'ai pas rien appris, hein. Eh oui, la Bible est claire. C'est en effet la première qualité de la lumière. Elle est claire. Il y a eu la colonne de feu dans le désert, la nuit pour les éclairer. Dans les psaumes, nous lisons, psaume 118, 28, « L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. » Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles éclaire. » Maintenant, je vais calmer le jeu parce que je vais trop vite. Je le sens. La lumière a un rôle déterminant dans notre marche. Elle éclaire notre sentier. La lumière, aussi simple que ça puisse paraître, permet de voir. Et je voudrais partager justement avec vous la différence entre voir et être éclairé. Nous voyons toutes sortes de choses, nous sommes bien éclairés. Je peux passer des années à lire la Bible, livre pieux et sage, mais sans être éclairé. C'est ce qui fait que certaines religions utilisent la Bible, mais ne sont pas éclairées et font dire n'importe quoi à la Bible. Je ne veux pas commenter. Nous avons pourtant un exemple qui nous montre que l'on peut pendant des années connaître Dieu sans être éclairé. Un exemple biblique. Job. Pieux homme de Dieu, disait-il. Dieu disait de lui. Job 1, verset 8. As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant de mal, du mal. Waouh, j'aimerais bien que Dieu dise de moi des choses comme ça. Hein, c'est une belle description d'un homme de Dieu. Pourtant, 42 chapitres plus loin, Job dira au verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant, à travers toutes ces œuvres, toutes ces épreuves, mon œil te voit. Maintenant, mon œil te voit. Il a été éclairé. Il a fallu 42 chapitres à un homme de Dieu. Un homme qui était intègre, qui était apprécié de Dieu. Il a été éclairé, c'est-à-dire qu'il a été visité par le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, le discernement et la conviction biblique. Pardon. Ce matin, la Bible nous pose une question. Une bonne question. Avez-vous été visité par le Saint-Esprit? Vous savez, on peut être religieux sans être chrétien. Si je n'entends pas Dieu me parler, je peux me poser cette question. Ai-je reçu la lumière? Ai-je été éclairé? C'est la question essentielle. Est-ce que vous parlez avec Dieu? Surtout, est-ce que Dieu vous répond? Est-ce que Dieu vous répond? Chose extraordinaire. Moi, je peux dire oui. Pas tout le temps. Des fois, je suis un peu sourd. Ensuite, Paul aux Éphésiens, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans sa prière, demande à Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur. Elle éclaire la lumière et elle illumine. Il y a la notion d'illuminer, d'embraser. Le petit Larousse dit illuminer, personne qui soutient avec zèle une doctrine avec une foi aveugle. Les autres ne peuvent pas supporter nos convictions. Pourtant, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, c'est-à-dire est mal. Romains 14, 23. C'est aussi le domaine du génie de la passion. On dirait aujourd'hui, mettre le feu dans sa foi. Dans l'Ecclésiaste 8, verset 1, la sagesse illumine le visage de l'homme. Et encore une fois, je pense à Moïse, qui redescend de la montagne après avoir été dans la présence de Dieu. Dans sa lumière, eh bien son visage irradie. Et le peuple dessous ne supportait pas, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, certainement. Il a été obligé de mettre un linge sur son visage parce que c'était insupportable, la clarté dont il était irradié. Enfin, troisième point, elle nous qualifie. Être dans la lumière, ça rassure. Les ténèbres font peur. Le méchant se cache à l'ombre des ténèbres. Nous, la Bible dit que nous sommes des enfants de lumière. Des enfants du jour. Alors, la lumière nous qualifie. La lumière nous porte vers Dieu. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Elle éclaire, elle illumine et elle qualifie. Revenons à notre texte. Du Père des Lumières, hein, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Chez Dieu, il n'y a pas d'ombre, pas de grisaille. Le gris, ça provient de l'ombre, ce qui est encore caché. Les compromis sont dans la grisaille. Les « je ne suis pas sûr », « j'hésite », tout ça, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu qualifie et illumine sa parole. Le chrétien vit dans la lumière, Dieu est rayonnant devant, derrière, sur les côtés, dessus, dessous, la lumière éblouissante qui vient de lui purifie toute chose. À sa lumière, tout est éclairé. La lumière libère des ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Lorsque nous sommes véritablement dans la lumière de Dieu, nous n'avons rien à craindre, tout est dévoilé. Et le chrétien vit dans la lumière. Avec Dieu, pas de changement, pas de doute, rien que des certitudes. Moi, je vais vous dire, c'est pas un secret, mais depuis que je connais la Bible, depuis que je vais dedans et que je continue d'y aller, ce qui me plaît, c'est que je suis sûr de certaines choses et ça change pas. J'ai vraiment que des certitudes sur Dieu. Il y a des choses que je sais pas, Ah oui, il y a des mystères, il y a des choses que je vous expliquerai pas. Me demandez pas à vous parler d'Apocalypse, je connais bien, mais je suis pas capable de vous dire tout ce qui est... Pardon. Mais... la Bible ne nous apporte que des certitudes. Et ça, je ne sais pas vous, mais dans un monde dans lequel nous vivons, ça fait du bien. C'est rassurant de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Personne sur cette terre ne peut revendiquer la possibilité qu'il a des certitudes. Dieu est certain, c'est des certitudes. Avec Dieu, pas de changement, pas de doute. Rien que des certitudes. Tout est dévoilé. J'y vois clair. Nous voyons clair. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et on ne vient au Père que par lui. Attention, ça va déborder. Et c'est une certitude. Le monde aussi a son Père. Dans la nuit du monde règne le Père du mensonge. Et ça aussi, c'est une certitude. Si nous sommes à Dieu, nous sommes enfants de la lumière. Nous avons pour Père le Père des Lumières. Le Dieu de toute consolation, le Dieu des miséricordes. Alors, réjouissons-nous. Sa lumière guide nos pas, éclaire notre intelligence, et illumine nos cœurs. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Avec Dieu, rien que des certitudes. tout ce que dit la Bible est vrai. Je le crois. Ça, c'est vrai, c'est certain. J'espère que c'est pour vous aussi le cas. Alors, pour finir, pour conclure, comment ça marche? C'était des belles idées, tout ça. Comment ça marche? Il faut beaucoup d'humilité pour marcher comme un chrétien dans ce monde. Humainement, c'est impossible. Alors, comment fait-on? Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Il n'y a qu'un seul moyen. La vieille nature doit mourir. Pour pouvoir renaître en Christ, il faut mourir à soi-même. Croyez que ça a été fait une fois? C'est à refaire. La vieille nature revient. Elle réclame ses droits constamment. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'est sûr. Je suis constamment confronté au fait que je vois que je suis un pécheur. Comme le dit Paul, quand je veux faire le bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. C'est ancré dans ma chair. Ces mauvaises pensées qui viennent dans ma tête. Tout à l'heure, j'étais en train de prier au début du culte et des pensées qui me passaient dans la tête. Mais ce n'est pas possible. On a envie de prendre un torchon et de faire nettoyer là-dedans. Hein. Pour parler avec Dieu, pour entendre Dieu nous répondre, il faut mourir et naître de nouveau. Et notez bien que ce n'est pas s'endormir, que ce n'est pas se transformer. Il faut mourir. Mourir, c'est s'éteindre, c'est disparaître, c'est ne plus être. C'est fini. La mort, c'est la seule chose dont on est sûr et qu'on ne revient pas. C'est fait. Et c'est définitif. Est-ce que nous avons tué le vieil homme? Est-ce que nous l'avons enterré? Mourir à soi-même. Il faut mourir et naître de nouveau, naître en esprit. La chair ou la vieille nature nous vient de nos parents, humains et pécheurs. La vieille nature, ça vient de là. La vie de l'esprit nous vient de Dieu. Dieu est esprit. En nous faisant naître de nouveau, il nous donne son esprit qui éclaire tout notre être. Nous sommes une nouvelle création. Jésus a donné sa vie pour que nous vivions éternellement. Je ne vais pas vous refaire l'évangile, mais c'est la vérité. Vous savez, on a besoin qu'on nous rappelle la vérité. C'est en Christ que nous sommes nés de nouveau. Parfois, il arrive, je ne sais pas pour vous, mais bon, malheureusement, ça m'arrive, il arrive, comme dit la Bible, d'attrister le Saint-Esprit. Et là, nous sommes immobilisés par le péché ou la pratique de quelque chose de mal. Il nous faut revenir à la croix. Ou là, en fait, comme moi, hein, restez-y au pied de la croix. Hein. C'est plus simple, comme ça, on n'est pas obligé d'aller bien loin. Hein. On reste à genoux, et là, on peut au moins s'adresser à Jésus qui, lui, sur la croix, a tout accompli, une fois pour toutes. Et là, mes amis, justement, en revenant à la croix, j'ai une bonne nouvelle pour terminer. Une bonne nouvelle. Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Alors je sais que nous, dans nos pensées un peu ringardes et puis toujours conflictuelles, on a tendance à dire « Oh, mais c'est abusé, tu viens toujours pour demander pardon, pour faire ci. » Il faut beaucoup d'humilité pour revenir constamment se mettre à genoux. C'est pour ça que c'est la qualité essentielle, l'humilité. Revenir se mettre à genoux en disant « Seigneur, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je suis mauvais. » De moi-même, c'est même pas la peine que j'essaye de réfléchir à dire que je suis bon. Non, non, c'est pas vrai. Rien n'est bon. Cette vieille nature que tu vois, elle est dépérie et tout, c'est mauvais. Par contre, tu as mis en moi un espoir, une espérance qui sera éternelle, une nouvelle vie. Et je prie, je crie vers toi pour que tu donnes force à cette vie. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de ta lumière. Éclaire-moi, s'il te plaît. Rends-moi capable de faire ce que tu veux. Je suis un pécheur. Je dois souvent demander pardon. Alors je reste là, au pied du Seigneur. Et vous savez, là, au pied du Seigneur, il y a encore des places à prendre. Voulez-vous venir avec moi maintenant et demander pardon à Dieu? Nous allons prier. Seigneur, c'est peut-être simple ce que j'ai dit ce matin. Et ta parole est tellement profonde, tellement claire, véritable, qu'elle illumine notre cœur. Enfin, moi, elle illumine mon cœur, Seigneur. Elle me fait toujours un bien incomparable. Quand je suis dans ma chambre, je me sens mais vraiment des ailes. Je me sens heureux parce que j'ai le privilège de pouvoir te parler et de t'entendre. Quel plus grand privilège que d'ouvrir la parole et que de cette parole nous entendons la voix de Dieu qui résonne dans notre cœur. Seigneur, c'est plus qu'un cadeau, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je te remercie pour ce matin justement où tu nous as peut-être interpellés en nous disant « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas. Nous sommes là devant toi et nous voulons être reconnaissants que tu aies de la patience, que tu ne te lasses pas de nous pardonner et que ta miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus. Amen. » Et je vous souhaite un bon dimanche. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée. C'est un rhume, un vieux rhume qui traîne.